France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Quentin Péchard, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. Comme chaque semaine, le vendredi, c'est une émission en deux parties. Le retour de terrain, le journaliste et vidéaste Max Lollon est retourné en Oklahoma, aux États-Unis, où il avait vécu il y a 10 ans. Ses amis de l'époque sont devenus de fervents trumpistes. Il essaye de comprendre pourquoi. Une série documentaire en 4 épisodes pour Arte, ça s'appelle High School Radical. Et puis, la table ronde consacrée aujourd'hui à la situation en Turquie, où le principal opposant, Ekrem İmamoğlu, arrêté en mars dernier, s'est vu notifier cette semaine un acte d'accusation particulièrement sévère. Est-ce un tournant dans la fuite en avant autoritaire du président Recep Tayyip Erdogan ? Nous en discuterons avec nos invités, Gulçin Erdi, directrice de recherche au CNRS, au sein du laboratoire CITERES à Tours, ancienne responsable de l'Observatoire urbain à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul, et Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et responsable du programme Moyen-Orient-Afrique du Nord. Une discussion co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Max Lollon.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant et vidéaste. Vous signez pour Arte une série en 4 épisodes intitulée High School Radical. C'est un récit à la première personne qui mêle projet personnel et documentaire. L'histoire que vous racontez commence en 2014. Vous avez 16 ans et vous partez vivre 1 an en échange scolaire aux États-Unis. Vous atterrissez à Owasso, une petite ville tranquille de 40 000 habitants dans l'État conservateur de l'Oklahoma. 10 ans plus tard, à la veille de l'élection présidentielle de 2024, vous décidez de revenir à Owasso avec cette question. Vos amis de l'époque ont-ils cédé aux sirènes du trumpisme ? Attention, spoiler, la réponse est oui. En tout cas, pour la grande majorité d'entre eux. Alors pourquoi ? Quel espoir Trump représente-t-il pour eux ? Comment leur vie a-t-elle changé ces 10 dernières années ? Avant de leur donner la parole, Max Lollon, j'aimerais vous demander de nous planter le décor. Nous sommes donc dans le sud central des États-Unis, au cœur de la Bible Belt. À quoi la ville d'Owasso ressemble-t-elle ?
Alors, la ville d'Owasso ressemble à toutes ces villes qu'on a l'habitude de voir dans les séries, dans les films. C'est une petite ville tranquille en banlieue de Tulsa, qui est la deuxième plus grosse ville de l'État. C'est une banlieue résidentielle avec son lycée immense, avec ses autoroutes immenses, avec ses centres commerciaux immenses, dans laquelle se croise finalement peu de diversité. Une Amérique blanche, chrétienne, évangéliste. Et puis assez tranquille, sans histoire particulière. C'est pas un endroit qui attire énormément de monde à première vue. Voilà.
Vous filmez cette Owasso avec sa banlieue résidentielle, ses fast-foods, ses embouteillages, son bowling, son centre de tir, ses matchs de foot du vendredi soir. Owasso, en 2014, quand vous y arrivez, est-ce qu'on peut dire qu'elle coche toutes les cases de cette carte postale de l'Amérique telle que les adolescents comme
Totalement.
Vous à l'époque la fantasme en Europe ?
C'est le mot, c'était le fantasme parfait de ce que j'imaginais des États-Unis, de ce que j'en voyais, de la façon dont je l'idéalisais, donc j'idéalisais ce pays. C'est vrai qu'en m'inscrivant dans ce programme d'échange, j'avais pas forcément en tête d'aller vivre en Oklahoma. Moi, je voulais plutôt aller à New York ou à Los Angeles. Mais finalement, je me suis retrouvé à quasiment équidistance de ces deux villes, parce qu'on est vraiment dans, au plein centre du pays. C'était tout ce qu'on voyait dans les séries, les casiers dans le lycée, les coca de 1,5 litre, c'était le paradis.
Et 10 ans plus tard, donc en 2024, lorsque vous commencez à avoir passé des publications pro-Trump sur les réseaux sociaux de vos anciens amis, vous décidez d'y retourner pour en avoir le cœur net. Et un des premiers messages, un des premiers textos que vous recevez lorsque vous arrivez aux États-Unis, eh bien, il est de Trump lui-même. Exactement. Que dit ce message ?
Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Je crois qu'il me dit dans le premier message qu'il m'aime et qu'il pense à moi. C'est-à-dire que les Américains ont des règles assez différentes des nôtres en termes de communication politique. Et donc, mon numéro de téléphone était enregistré dans une base de, pas de soutien, mais parce que je m'étais inscrit à un de ces meetings. Et donc, à partir du moment où j'arrive, je foule le sol américain et que mon téléphone est géolocalisé aux États-Unis, je recommence à recevoir toutes les deux heures environ un texto qui commence toujours par « From Trump ». Et ensuite, quelque chose qui m'est adressé à moi, il connaît
mon
prénom.
C'est personnalisé, c'est écrit « Hello Max ».
« Hello Max, this is President Trump », donc c'est le président Trump. « I love you, I think about you, je t'aime, je pense à toi, je me bats pour toi ». Et ça, au début, ça m'a fait rigoler. Puis en fait, ça arrive toutes les deux heures. Et donc, au bout d'un moment, ça commençait à être vraiment oppressant. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir la présence qu'il occupait finalement, à la fois évidemment dans le débat public, mais aussi dans l'intimité des citoyens américains qui, toutes les deux heures, pour ceux qui ne s'étaient pas désinscrits, recevaient des messages où Trump réagissait à la petite phrase qui faisait le buzz sur les réseaux. Il y a eu le fameux épisode où Biden avait appelé « garbage », donc « ordure », les partisans de Trump. Et alors tout de suite, dans les 10 minutes, il y avait un texto « Biden vient t'insulter, il vient de dire que t'es une ordure ». Enfin, c'était omniprésent et presque Big Brother is watching you, enfin vraiment assez effrayant.
Je précise que dans votre documentaire, vous avez choisi un format particulier. On y retrouve la grammaire du code YouTube, un récit à la première personne. Ouais. Vous filmez, ouais. Et c'est ce qui nous permet justement de voir ça, c'est-à-dire les textos que vous recevez, les notifications, et vous expliquer face caméra ce que ça vous fait.
Ouais, c'est un vlog, en fait, c'est une forme documentaire que j'ai voulu faire en vlog parce que moi je viens de YouTube et c'est vrai que c'est mes codes et c'est comme ça que je pense pouvoir proposer l'analyse la plus sincère et la plus proche du terrain possible. En fait, la quête journalistique fait partie complète, intégrante du sujet du documentaire. Et je pense que ça permet aussi d'être peut-être plus proche du spectateur et permettre de l'immerger un peu plus dans le terrain.
Y compris dans la dimension émotionnelle, puisque tout l'enjeu de ce retour, c'est de renouer avec des gens avec qui vous avez été très proche il y a 10 ans, mais avec qui vous ne parliez pas de politique, vous aviez 16 ans. Et là, c'est l'idée de se confronter à cette réalité-là. Et pour s'y confronter, bien, vous commencez par vous joindre à un cortège de manifestants pro-Trump qui est organisé par les habitants de Owasso. C'est une manifestation en voiture. En quoi cela consiste ?
Eh ben, on fait le tour de l'État d'Oklahoma en voiture, avec les drapeaux accrochés à la voiture. Tout le monde est habillé aux couleurs du Parti républicain. Et voilà, il n'y a pas un itinéraire Paris-Nation jusqu'à Opéra. Là, c'est plutôt en voiture, en drive. Donc, je dis dans la série, voilà, c'est une manif, mais en drive. Donc, assez représentatif de la culture locale.
Et vous êtes accueilli de manière assez chaleureuse sur place, mais les discours sont radicaux, comme celui du pasteur qui bénit le cortège avant de démarrer.
Je sens la tension dans l'air. Je sais qu'il y a quelque chose de grave qui se prépare et je ne veux pas voir ça. Nous sommes en guerre civile. Sans coup de feu pour l'instant, ils font le plein de munitions et d'armes.
Tu le vois ?
Oui, et j'y participe.
Ah bon ?
Je m'y prépare. Je m'y prépare parce que je compte bien défendre ma famille et ma maison jusqu'à ma mort.
Je peux sentir la tension dans l'air, vous dit le pasteur. Il dit qu'il ne veut pas voir ça. En même temps, il se prépare à ce qu'il appelle la guerre civile. Qui est l'ennemi pour lui ?
C'est une très bonne question. C'est ce que j'ai essayé de comprendre. Au début, c'était assez flou. Alors, pour eux, il y a évidemment cette panique vis-à-vis de l'immigration. Donc, ils fantasment un ennemi intérieur qui aurait complètement intégré la société et qui serait prête à prendre les armes pour tuer des Américains. Donc, il y a quand même une paranoïa assez incroyable à ce niveau-là. Mais quand on creuse un petit peu, finalement, leur colère, elle est beaucoup plus dirigé vers la classe politique, vers les élites, ce qu'ils appellent les élites, qu'ils n'arrivent pas vraiment à définir, mais en gros, vers ceux qui gagnent, ceux qui y arrivent, ceux qui s'en sortent dans ce pays qui a quand même connu, en tout cas pour ces gens-là, un déclassement social. Et donc, cet ennemi, il est très flou. Et il est fluctuant en fonction aussi du dernier tweet de Trump. Et c'est ça qui est assez intéressant et à la fois effrayant, parce que la colère, elle est là, elle est présente tout le temps, et elle va se diriger en fonction de vers qui pointe, qui est désigné comme ennemi. Elle va se diriger en fonction du discours et du débat politique du moment.
En tout cas, l'idée qu'on serait au bord d'une guerre civile, ça c'est vraiment quelque chose qui revient dans de très nombreux témoignages tout au long des 4 épisodes de la série.
Moi, j'y croyais pas au début. Je pensais que c'était des Américains, ils en font un peu des caisses, etc. Mais en fait, il y a eu un moment qui m'a vraiment marqué, c'est-à-dire que dans cette manifestation-là, je parle avec 2 autres militants et je leur dis, je suis allé voir un meeting de Trump, j'ai vu d'autres supporters, tout le monde me parle de guerre civile, mais est-ce que sincèrement, vous êtes prêt à abandonner le confort de votre vie quotidienne pour prendre les armes et vous battre contre vos concitoyens, votre gouvernement, peu importe? Il me dit, et c'est là que j'ai compris, ils me disent, mais ce que toi, t'as pas compris, c'est qu'on a perdu déjà notre vie quotidienne, notre confort de vie quotidien. On travaille 85-90 heures par semaine, à peine pour payer nos factures. Donc, de toute façon, on a déjà tout perdu. Et il y a eu, en tout cas, moi, j'ai ressenti un vrai changement d'attitude vis-à-vis de cette menace planante de la guerre civile quand j'ai réalisé ça. Et quand j'ai ressenti à travers leur expression la souffrance et à quel point ils étaient à bout, en fait.
L'ennemi, vous le dites, ils ont de la peine à le nommer, c'est quelque chose d'un peu flou, de fluctuant, mais tout d'un coup ça devient concret quand vous vous rendez compte que certains de ces pro-Trump ont dans leur famille ou dans leurs proches des personnes qui ne sont pas trumpistes ou qui se tiennent Kamala Harris. On est, je le rappelle, à ce moment-là, quelques semaines avant le vote. Et il y a par exemple cette mère qui vous dit que sa fille est pro-Harris et qu'elle ne veut pas se brouiller avec sa fille. Et voilà, et elle égrène les convictions politiques de sa fille et on la sent tiraillée entre une opposition politique, puisque c'est quelqu'un de très militant, et un lien affectif qui la lie à sa fille.
Et c'est un peu aussi ce que moi j'ai ressenti, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ennemi est loin, qu'on n'arrive pas à l'identifier devant soi, on est plus violent, on est plus haineux. Mais quand il s'agit de quelqu'un qu'on connaît, en l'occurrence la fille de cette femme, ou moi, même mes potes qui savaient que moi j'étais pas trumpiste, quand on se voit et qu'on discute, ça apaise quand même malgré tout. Et on n'en est pas à ce niveau-là de menaces et de radicalisation. Et donc, c'est vrai que c'est un peu le paradoxe. Et en même temps, c'est moi ce qui me donne un peu d'espoir. C'est-à-dire que cet ennemi qui est flou, il n'est pas matérialisé ni matérialisable. Et dès qu'il l'est, finalement, ça apaise les choses. Parce que, évidemment, cette femme-là, quand elle parle de sa fille, elle n'a aucune intention d'aller lui tirer dessus.
Les Américains sont tellement divisés qu'on ne parle plus d'intelligence ou de logique. Cette déshumanisation de l'autre, je ne la comprends pas. Des gens s'entretuent car l'autre n'est plus un être humain. C'est Alex qui parle, un ancien ami que vous retrouvez. Ce sont des propos qui peuvent paraître réconfortants. Il y a une lucidité quelque part. Oui. Et Alex, vous lui faites le test de la casquette. C'est un test que vous allez faire à toutes les personnes que vous rencontrez. Vous leur demandez de fermer les yeux. Puis vous sortez 2 casquettes, la casquette MAGA et la casquette Harris. Et vous leur demandez de choisir. Et Alex, il choisit la casquette rouge.
Exactement. Et il me précise quand même qu'il ne compte pas voter. Mais malgré tout, il choisit cette casquette et c'est la première retrouvaille que moi je fais en arrivant, parce qu'on était vraiment très copains à l'époque. Et lui avait rien posté, en fait, sur les réseaux sociaux pendant 10 ans. Donc je ne savais absolument pas où est-ce qu'il se situait. Et donc pendant toute la conversation, il me dit ces paroles où, comme vous l'avez dit, elles sont assez rassurantes, ou en tout cas, la lucidité de son discours, je me dis, lui, il n'a pas basculé. Et puis finalement, il choisit la casquette Trump. Alors, je pense que lui, il est plus dans un nihilisme ou il n'y croit plus. Il y a évidemment plein de parties qu'on a coupées au montage, mais il a beaucoup parlé de l'impact du Covid dans la désillusion. En fait, il m'a dit, le Covid, ça m'a donné l'impression de... C'est comme si j'allais au McDo et que je me rendais compte de ce qu'il y avait dans les cuisines. C'est-à-dire qu'en fait, il a perdu la croyance dans son pays. Et donc, pour lui, l'establishment démocrate vaut pas beaucoup mieux que les MAGA. Et donc, voilà, il était dans une sorte de désillusion complète. Donc, il m'a dit ne pas vouloir voter, mais bon, il choisit quand même, en effet, la casquette Trump.
Et vous retournez aussi, Max Lelong, voir une autre famille. Il s'agit de Andy et Vanessa, qui vous emmenaient chaque matin au lycée dans leur voiture, avec qui vous avez noué un lien très fort.
Ouais.
Quand vous arrivez chez eux, l'écran est allumé en arrière-fond et Trump est là sur YouTube.
En ce qui me concerne, quand Trump s'est présenté pour la première fois, je n'ai pas trouvé que son langage, son comportement était digne d'un président. Mais c'est un homme d'affaires qui sait gérer une entreprise et qui veut faire la même chose pour notre pays. C'est pour ça que j'ai voté.
Si tu nous demandes si on vit mieux qu'il y a 10 ans, absolument pas. C'est une frustration pour nous.
Les fins de mois sont difficiles. Tout coûte plus cher. Mais notre président actuel, Biden, et Madame Harris ne voient pas les choses comme ça. Ils disent qu'il n'y a pas d'inflation, qu'il faut voir les choses autrement, qu'on a tort.
Vous êtes blanc, donc privilégié. T'as vu combien je gagne ?
Quel privilège j'ai ?
Quand on soutient Trump, on se fait insulter. C'est pour ça que j'ai quitté Facebook. Un jour, je parlais d'un truc sur Facebook, et une dame dit « Je parie que tu viens du Sud profond, ignare et raciste. » Je ne viens pas du Sud, mais du Midwest. Je suis allé à la fac, et je suis raciste. Je me suis occupé d'enfants noirs, musulmans, et là, elle me sort « Vous les avez sûrement violés. » Voilà le problème. Là, par exemple, on discute. Mais ça ne marche plus comme ça. C'est plus « tu es le diable, non, c'est toi ».
Ce qui frappe dans les propos de Andy et Vanessa, c'est cette impression d'être profondément incompris.
Mmh. Ouais, ils se sentent complètement abandonnés, seuls. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ce déclassement dont ils parlent, eux, ils le vivent vraiment dans leur chair, parce que cette maison où je suis allé les retrouver, dont ils étaient propriétaires il y a 10 ans, ils ont dû la vendre et ils sont aujourd'hui locataires. Et donc, tous les jours, en se levant le matin, ils vivent ce déclassement. Et ils se sentent absolument pas représentés par les propositions des démocrates. Et donc, ils se réfugient dans les bras de Trump qui, d'un point de vue économique, leur paraît être le plus légitime à améliorer leurs problèmes.
Ils parlent de la violence qu'ils subissent, la violence sociale, mais que pensent-ils, que disent-ils, je ne sais pas si vous les avez interrogés là-dessus, de la violence qu'il y a dans les discours de Trump, que ce soit contre les migrants, contre les femmes, contre les opposants démocrates?
C'est un peu un point noir de leur soutien, c'est-à-dire qu'en fait, ils font fi de ça. Ils font fi de ça parce que... Et c'est ce qu'elle dit au tout début. Elle disait, bon, c'est vrai que je ne trouvais pas qu'il avait une attitude très présidentielle. Mais l'idée qu'un homme d'affaires vienne... Donc il y a toujours, oui, c'est vrai, les discours sont un peu, voilà. Mais en même temps, c'est Trump, c'est le personnage. Voilà, c'est un showman, ça fait partie du personnage pour eux. Par contre, c'est toujours contrebalancé par, mais par contre, il va faire ça, et on le sait qu'il va le faire, on a confiance en lui. Donc le soutien est malgré tout beaucoup plus puissant que les petites réticences que le discours peut apporter.
Parmi les paradoxes qui sautent aux yeux, il y a aussi le moment où ils vous évoquent leurs problèmes de santé. Mmh. Vous êtes attablé autour d'une pizza qui a l'air particulièrement grasse. Vous buvez des litres de soda. Et donc, on sait aussi à quel point les soins de santé sont devenus inabordables pour des millions d'Américains. Ils ne craignent pas à ce moment-là de voter pour quelqu'un qui n'a pas promis de changer ce système-là?
Ben, c'est tout le sujet. C'est-à-dire que ils n'ont pas les moyens d'aller acheter de la nourriture saine. Il y a une scène dans la série où je vais dans un équivalent d'une biocoop locale et tout coûte vraiment très très cher. Et donc, commander des pizzas et boire du coca coûte moins cher que manger un repas sain et boire de l'eau, ben voilà, ils n'ont pas trop le choix. Et en même temps, c'est des gens qui sont malades, ils sont diabétiques, comme beaucoup, beaucoup d'Américains, en situation d'obésité. Et en même temps, sur les dernières semaines de la campagne, a émergé aussi, avec Robert Kennedy, un transfuge du camp démocrate, une proposition qui s'appelait MAHA, Make America Healthy Again. Et donc, ils se sont emparés de ça, justement, en disant, ben voilà, il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous n'avez pas de sous, donc vous mangez n'importe quoi, donc vous devenez malade, donc, mais vous n'avez pas de sous, donc vous ne pouvez pas vous faire soigner, donc vous êtes encore plus malade, donc voilà. Et donc, ça a été intéressant de voir comment les républicains sont devenus presque des opposants à l'agro-industrie alimentaire américaine, à toutes les assurances, santé, enfin tout ce qui compose le capitalisme américain par excellence. Et ils se sont positionnés plutôt par pur discours électoraliste, mais du côté des lésés, en quelque sorte, de ce système que eux-mêmes entretiennent et mettent en place.
La nourriture, c'est un point central, fil rouge de votre documentaire. Elle fait partie à la fois du fantasme, de la nostalgie que vous en aviez, mais aussi de la désillusion qui est la vôtre en revenant aux États-Unis 10 ans plus tard. Merci beaucoup, Max Lelong. Votre série en 4 épisodes, High School Radical, est à retrouver sur le site d'Arte. On fera un lien sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup d'être devenu dans le retour de terrain.
Merci beaucoup.
Give You Power, en 2017, Arcade Fire, le groupe canadien, et Mavis Staples, une chanteuse américaine. Vous écoutez Culture Monde, seconde partie de notre émission Actu du vendredi, direction la Turquie.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Je regrette de devoir annoncer qu'une bande de personnes qui tentent d'usurper la volonté de notre nation utilisent notre police, les forces de sécurité de ce pays, à des fins malveillantes. Ils ont déployé des centaines de policiers à ma porte. Nous sommes confrontés à une grave oppression, mais je veux que vous sachiez que je n'abandonnerai pas. Je tiens énormément à vous. Je m'en remets à ma nation. Faites savoir à toute la nation que je resterai ferme. Je continuerai à me battre contre Erdogan et sa mentalité qui a utilisé tout ce processus comme un outil.
C'était le 19 mars 2025. Dans cette vidéo publiée juste avant son arrestation, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, se filme chez lui. On le voit passer son costume et nouer sa cravate avant de se rendre aux forces de l'ordre qui l'attendent en bas de chez lui. Considéré comme le principal rival au président Erdogan, Ekrem İmamoğlu est poursuivi pour 142 chefs d'inculpation, corruption, détournement d'argent, espionnage. Il encourt une peine comprise entre 828 et 2352 années de prison. prison, selon l'acte d'accusation rendu public ce mardi 11 novembre. Alors, cette procédure judiciaire signe-t-elle la fin de la carrière politique du populaire maire d'Istanbul ? Jusqu'où le pouvoir compte-t-il aller dans son acharnement contre l'opposition ? On en discute avec nos invités. Gülçin Erdi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS au sein du laboratoire CITERES MSH à Tours, ancienne responsable de l'Observatoire urbain à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Ankara, miroir de la République, pouvoir, utopie et résistance, c'est à paraître aux éditions de l'Université de Bruxelles. Et à vos côtés, Didier Billion. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, responsable du programme Moyen-Orient-Afrique du Nord, auteur de La Turquie, un partenaire incontournable aux éditions Erol. Une discussion co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du Monde. Bonjour Marc, et c'est à vous pour votre édito.
Bonjour Mélanie. Alors oui, cet acte d'accusation, c'est 3700 pages, ce qui est quand même costaud, avec 142 chefs d'inculpation, tu le disais, allant de corruption à espionnage. Et Ekrem İmamoğlu, le maire GAP du Grand Istanbul, est considéré être le maître d'œuvre d'un vaste complot qui, je cite, tel une pieuvre, aurait gangréné tous les rouages de l'État. Il est passible de jusqu'à 2340 années de prison. Alors, pour mettre hors jeu İmamoğlu pour la prochaine présidentielle, où il est donné largement favori par les sondages, il aurait suffi de l'annulation déjà actée par ailleurs par la justice de son diplôme universitaire. C'est en effet une condition sine qua non pour être candidat. Ou de diverses affaires de malversation, on en trouve toujours quand on gère une ville comme Istanbul, surtout quand on s'appuie sur des témoins secrets. Alors, en fait, ces accusations gigantesques, certains diront délirantes, montrent surtout la panique de Recep Tayyip Erdogan et du pouvoir islamo-conservateur qui règne sans partage sur le pays depuis 22 ans. L'objectif est en effet clairement de mettre hors jeu le parti GAP lui-même, car d'ailleurs, selon les sondages, tout autre candidat de ce parti battrait aussi Recep Tayyip Erdogan dans les urnes. Et d'ailleurs, dans l'acte d'accusation, il y a 402 autres inculpés, dont les maires d'une dizaine d'autres villes ou de divers quartiers d'Istanbul. Le GAP dénonce un coup d'État présidentiel. Ce parti est la principale force d'opposition. Il gère, outre Istanbul, la plupart des grandes villes du pays, à commencer par Ankara et Izmir. Il a été fondé par Mustafa Kemal lui-même, en même temps que la République, inspiré du modèle jacobin créé sur les décombres de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Et depuis, il en est le pilier. Donc, c'est la démocratie turque, ou ce qu'il en reste, qui est aujourd'hui menacée. Jusqu'ici, Erdogan et son parti avaient remporté tous les scrutins dans des conditions plus ou moins équitables. Le pays est en train de basculer de l'autoritarisme, de la démocratie illibérale à une véritable autocratie. Jamais la Turquie, pilier du flanc sud-est de l'OTAN, qui a commencé ses négociations d'adhésion avec l'Union européenne il y a 20 ans, n'a été aussi importante d'un point de vue géostratégique. Pour la coalition des volontaires pour l'Ukraine, pour le rôle qu'elle pourrait jouer au Moyen-Orient et à Gaza dans les plans trumpiens, jamais néanmoins elle n'a été aussi éloignée des valeurs européennes. C'est un sérieux casse-tête pour les 27 et qui sont d'ailleurs très silencieux.
Merci beaucoup Marc Semo. Est-ce qu'on s'attendait à une telle sévérité dans le réquisitoire qui est tombé cette semaine, Gülçin Erdi ?
Personnellement, oui, je m'y attendais. En fait, c'est pas quelque chose de très étonnant. En Turquie, on savait que le gouvernement, en fait, était prêt à lancer un assaut démesuré sans frontières pour empêcher vraiment la montée du GEP et aussi le soutien de Ekrem İmamoğlu. Parce qu'il faut dire, Marc Semo a souligné déjà dans le sondage depuis très longtemps ce qui n'était pas le cas. Le GEP est devenu le premier parti de la Turquie, autour de 32% des intentions de vote. Et ensuite, après son arrestation, le GEP a organisé en fait une primaire pour sa candidat, pour définir son candidat à la présidentielle. Et presque 16 millions de Turcs ont voté pour Ekrem İmamoğlu. Donc je pense que c'était quelque chose aussi inattendu. Et l'annulation du diplôme, je pense, ne suffisait pas au gouvernement en fait pour empêcher cet élan. Et il fallait quand même trouver d'autres, je pense, d'autres issues pour pouvoir barrer la route à la fois à Ekrem İmamoğlu, mais aussi aux partis politiques.
C'est justement la question que j'allais vous poser, parce que Marc rappelait que si le pouvoir voulait empêcher Ekrem İmamoğlu de participer à la présidentielle, il aurait pu, entre guillemets, s'arrêter à la question du diplôme. Cet acharnement judiciaire-là, le fait que ça porte aussi sur de nombreux collaborateurs, proches, élus, conseillers du maire d'Istanbul, qu'est-ce que ça dit d'un rapport de force là très dur qui est en train de s'instaurer entre l'AKP et le CHP, le parti d'opposition Didier Billon?
Il y a deux aspects, je pense, qui sont importants pour rebondir sur ce qu'ont expliqué mes collègues. C'est que le tournant répressif, la stratégie liberticide de Erdogan, elle ne date pas d'hier, elle ne date pas du mois de mars dernier. Elle a été entamée depuis de bien nombreuses années. On va pas s'amuser à faire la chronologie, mais il y a par exemple eu les suites de la tentative de coup d'État militaire qui, de mon point de vue, en 2016, avait entraîné déjà à l'époque une sorte de contre-coup d'État civil. C'est-à-dire que des milliers de personnes avaient été arrêtées sous les prétextes les plus futiles, dont un certain nombre, d'ailleurs, ont été libérés après avoir purgé quelques mois de prison. Et ce climat liberticide, il n'est donc pas nouveau. Des élus avaient déjà arrêté, mais jusqu'alors, cela se concentrait principalement contre les élus du parti kurdiste. Or, depuis le mois de mars dernier, on est passé dans une autre dimension, parce que Erdogan s'attaque directement au principal parti d'opposition, qui, rappelons-le, en mars 2024, avait gagné haut la main la plupart des villes importantes, non seulement les grandes villes qui ont été rappelées par Marc, mais aussi la plupart des chefs-lieux de province, etc. Donc, ce parti représente un danger clair et net pour Erdogan. Mais je vais plus loin, parce qu'au-delà du cas de İmamoğlu et des autres accusés, alors évidemment, il y a un effet optique, c'est-à-dire que quand on voit ces centaines d'années de prison à l'échelle d'une vie humaine, ça n'a aucun sens. Mais c'est le symbole qui est important. C'est la puissance de l'État avec un grand qui veut se réaffirmer. Mais ce qui me semble encore peut-être plus important que nous n'avons pas évoqué jusqu'alors, et c'est là aussi un saut qualitatif, c'est que la justice, je mets des guillemets, bien évidemment turque, a décidé au mois de septembre, il y a quelques semaines, de dissoudre la branche provinciale du Parti Républicain du Peuple, le CHP. C'est-à-dire que désormais, l'État s'arroge le droit de pouvoir dissoudre des branches de partis, alors sous les prétextes les plus futiles. Et Marc a dit une chose très importante, c'est qu'il maintenant, c'est la grande mode en Turquie, il y a des témoins secrets. On ne sait pas qui ils sont. Ils font des déclarations sous le sceau du secret, ce qui, vous le comprenez bien, laisse la porte ouverte à toutes les manœuvres possibles et inimaginables. Donc on est dans une situation extrêmement grave, et là il y a véritablement un saut qualitatif. Et dernière chose peut-être, le respect des élections, même si elles n'étaient pas toujours équitables ces élections, était assuré jusqu'alors dans la République. Et moi, j'ai eu un étudiant qui me disait au mois de mars dernier à Istanbul, à l'université de Galatasaray, donc quelques jours après l'arrestation d'İmamoğlu, je discutais avec lui, la faculté où je donnais des cours était en grève, etc. Il me dit, mais là, ils nous prennent la seule chose qu'il nous restait, c'est-à-dire le respect du résultat des élections.
Mais justement, en mars dernier, au moment de l'arrestation de İmamoğlu, on a vu des manifestations très importantes à Istanbul et pas uniquement dans tout le pays pour protester, avec d'ailleurs une répression assez forte. Est-ce que, alors j'ai regardé la presse, mais pas vu grand-chose depuis que le réquisitoire est tombé cette semaine, mais est-ce que vous avez des échos l'un et l'autre de réactions qu'aurait provoqué cette décision de justice, la tombée cette semaine contre le maire d'Istanbul?
En Turquie, vous voulez dire?
Oui, oui, oui.
La réaction, en fait, la réaction, je pense que ça s'est centralisé davantage, en fait, autour des meetings et mobilisations de Özgür Özel, qui, en fait, multiplie les meetings et il est quelque part tous les jours. Et ça permet, en fait, ça devient, en quelque sorte, une plateforme un peu sécurisée pour, en fait, l'opposition et les gens qui ont envie de s'exprimer un peu, d'aller en fait dans ces meetings et mobilisations, parce que toute mobilisation en dehors de ces meetings officiels entre guillemets de Özgür Özel est sévèrement réprimée. On l'a vu en fait, à Saraçhane, dès que Özgür Özel arrêtait en fait ses meetings politiques, les gens qui essayaient de marcher vers la place Taksim ont été sévèrement réprimés par les polices turques. Et donc, la réaction, en fait, c'est un peu comme dit Didier Billon, en fait, c'est au sein de la société turque, il y a une véritable, notamment de la part de la jeunesse, un refus, un rejet, en fait, du régime actuel, sans que ça se reflète, en fait, physiquement dans la rue, mais plus dans les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est devenu vraiment une plateforme en Turquie pour les gens, pour exprimer vraiment leur colère et leur opposition au gouvernement. Et c'est comme ça actuellement que ça se joue en Turquie, cette réaction publique.
Özgür Özel, dont vous parliez, qui est donc le leader du parti.
C'est le leader du parti, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Marc Semo.
Mais alors, est-ce qu'on peut dire maintenant, bon, la Turquie était une démocratie libérale, c'était un pays évidemment autoritaire, est-ce qu'aujourd'hui la Turquie est en train de devenir purement et simplement une dictature ? C'est-à-dire, il restait les élections. Vaille que vaille, il y avait eu des manips, etc. Les conditions de campagne étaient inéquitables, mais le scrutin lui-même, à l'exception peut-être de celui du référendum qui avait donné les pleins pouvoirs à la présidence, était globalement acceptable. Est-ce qu'aujourd'hui, on est rentré dans autre chose ? Est-ce qu'aujourd'hui, la Turquie est devenue une dictature ? Ce qu'elle n'était pas, contrairement à ce que disaient beaucoup de gens.
Moi, c'était ma thèse. On a déjà eu des débats, d'ailleurs, ici même ou ailleurs. Je considérais que ce n'était pas une dictature, parce que dans un pays où, par exemple, la plupart des grandes villes étaient gagnées, tenues par l'opposition, ce n'est pas la définition d'une dictature. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un processus de marche à la dictature, et ce processus est-il achevé ou pas ? Je ne sais pas, mais à partir du moment où l'État, comme j'évoquais, peut interférer sur la vie même de l'intérieur des partis politiques. Ça veut dire que le champ des libertés individuelles et collectives se réduit de jour en jour, et que là, il y a un problème. Alors, un intellectuel turc que nous connaissons bien ici, Ahmet İnsel, m'avait expliqué un jour dans un débat que nous menions, il me disait la façon dont on peut qualifier le pouvoir, c'est une autocratie aléatoire. Et j'ai retenu cette qualification, ça me paraît très juste. Autocratie, chacun comprend. Mais aléatoire, c'est qu'on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Et c'est terrible pour la société civile, c'est terrible pour les journalistes, c'est terrible pour les militants, parce qu'ils peuvent un jour très bien faire une déclaration ou écrire un édito très anti-Erdogan et ne rien risquer, et puis le lendemain faire un édito beaucoup moins résolu et radical, et là, se retrouver au commissariat du coin. On a eu des exemples la semaine dernière où plusieurs journalistes ont été emmenés au commissariat le matin, mais la police a dit non, mais ils sont pas en garde à vue, et puis on les a libérés le soir. Alors, c'était en rapport avec le procès de İmamoğlu. Donc, c'est le règne de l'arbitraire. Ça, c'est une certitude de plus en plus évidente. Dictature d'ores et déjà ou pas, je crois que le débat reste ouvert. Je ne prononce pas encore le terme, mais tous les ingrédients sont rassemblés, en tout cas.
Oui, en fait, effectivement, c'est un débat un peu compliqué, mais moi, personnellement, en fait, je suis plus nuancée avec cette histoire de dictature, parce que je trouve que ce qui se passe depuis un an, justement, sont les faits, en fait, d'un pouvoir politique qui est en train de perdre son emprise sur la société turque. Et aussi électoralement, en fait. Et il y a de plus en plus une alternative qui commence à se développer au sein de la société turque, et ce notamment depuis les élections municipales de l'année dernière, où en fait c'était encore un raz-de-marée concernant les mairies détenues par le CHP. Moi, je préfère en fait commenter ce qui se passe comme en fait une façon d'essayer de se sauver. Parce que Erdogan
mais par
ne sera
l'autoritarisme.
Oui, mais Erdogan ne sera plus là, et pour après Erdogan, il y a personne en fait qui est capable de mener les foules en Turquie comme il a fait pendant plus de 20 ans. Et là, c'est aussi un peu le panique, à mon avis, de la part du parti au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait si, en fait, Ekrem İmamoğlu ou CHP arrive au pouvoir, parce qu'il y a tellement, parce qu'il parle de tentacules, etc., concernant l'organisation d'Ekrem İmamoğlu, mais c'est pareil aussi, en fait, il y a tellement de gens qui se nourrissent, en fait, de ce système. Ils veulent pas, en fait, que ce système change brutalement, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont perdre leurs privilèges si AKP venait à perdre le pouvoir. Donc, ils utilisent tous les moyens, en fait, effectivement, par autocratie. Mais c'est aussi le fait que c'est aléatoire, effectivement, parce qu'aujourd'hui, ils ont entamé, en fait, des négociations de paix avec les Kurdes. Et rappelez-vous, en 2016, il y a eu une pétition pour la paix des universitaires en Turquie qui ont perdu leur poste, etc., et sévèrement punis. Si c'était aujourd'hui, ils seraient acclamés par l'AKP, en fait, tous ces universitaires. Donc, c'est ça aussi en Turquie, la conjoncture, l'actualité change énormément dans ce pays. Et est-ce qu'on va vers la dictature ou est-ce que ce sont les dernières chants de cygne, cris du régime Erdogan? On n'arrive pas pour l'instant à le prédire.
Didier Billon, vous voulez réagir?
Oui, c'est pour rebondir. Rappelons-nous, par exemple, lors des dernières élections municipales et d'ailleurs législatives en 2023, là où le Parti républicain du peuple a remporté les suffrages, et je rappelle, dans la plupart des grandes villes ou villes moyennes de la Turquie, j'avais fait un petit calcul, ça représente 66% du produit intérieur brut fabriqué par la Turquie. Ça veut dire que dans les régions les plus dynamiques, les plus industrielles, les plus productives, clairement, il y a une opposition manifeste contre Erdogan. En ce sens, et là je suis tout à fait d'accord, je ne sais pas si c'est le terme de panique, peut-être est-il un petit peu fort, mais une très forte inquiétude, ça, il faut sauver les meubles. Et puis deuxième chose, si on essaie de généraliser un peu, et ça fait un écho à ce qu'on évoquait précédemment sur les États-Unis, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la Turquie est totalement polarisée, qu'il y a deux blocs qui se font face. Alors, le pouvoir a encore une base sociale, électorale, pour les raisons évoquées, c'est qu'il y a beaucoup, mais beaucoup, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui vivent du système. Donc, ça compte dans l'équation politique. Mais que, lors de des dernières élections, en tout cas, je constatais que ces deux blocs étaient totalement opposés, ne se comprenaient plus. Il y a véritablement deux paradigmes, deux formes de raisonnement, et ne s'écoutent plus, ne s'entendent plus. Donc, évidemment, la résistance de la société civile, c'est un fait. Elle ne prend pas toujours la forme de manifestation. Il y a les réseaux sociaux, etc. Elle se sert jusqu'alors des échéances électorales. Elle l'a prouvé lors des derniers scrutins. Pour autant, comme la répression est de plus en plus vive et de plus en plus ciblée, notamment contre le Parti républicain du peuple, la manœuvre, le projet, le but de Erdogan, il est clair et net. Y parviendra-t-il? Je ne sais pas et je ne le souhaite pas. Mais c'est de briser toute opposition organisée, digne de ce nom. Et dernière chose, ces jeunes, cette jeunesse turque, une partie de cette jeunesse, une partie importante, majoritaire de cette jeunesse, elle est aussi un peu déboussolée par le manque de perspectives politiques immédiates. C'est-à-dire qu'on peut descendre dans les rues, on peut manifester, on peut être très nombreux, on se prend beaucoup de coups de matraque et on se retrouve souvent au commissariat. C'est déjà un aspect un peu dissuasif. Mais par ailleurs, il n'y a pas de débouché politique en dépit des efforts du GEP, en dépit des meetings de Özgür Özel qui continuent et qui cristallisent cette opposition.
Gülçin Erdi et puis Marc Semo.
Il y a aussi un point, je pense, qu'on devrait évoquer là, c'est justement entre ces deux pôles. Et notamment si on parle du pôle AKP, on voit en fait depuis un certain temps de plus en plus de fractures au sein du pôle AKP en fait. Et ce qui n'était pas le cas, restait toujours assez soudé. Et là, le camp qui reste soudé actuellement, c'est plus le camp d'opposition. Et parce que le GEP commence à obtenir aussi le soutien d'autres partis de gauche, etc. Mais en fait, le fait que AKP a commencé à entamer des négociations de paix avec les Kurdes a créé une fracture au sein de l'électorat de AKP qui est opposé en fait à ce processus. Et il y a une partie aussi de son petit allié MHP. Bon, on dit petit allié, mais en fait MHP est plus forte que ça au sein de l'État, au sein de l'appareil étatique.
C'est la
pense.
Mouvance nationaliste.
Voilà, mouvement nationaliste extrême droite qu'on appelle les loups gris. Et il y a une partie aussi de MHP qui n'est pas d'accord avec ce processus à AKP. Il y a un autre paramètre en fait qui contribue à cette fracture, c'est la crise économique en Turquie. Ça, il faut vraiment pas oublier parce que moi, je viens de rentrer de la Turquie depuis après 3 ans. La crise économique, ça se sent dans la vie quotidienne, ça se sent dans les prix. Il y a une inflation énorme. Les salaires, en fait, face à l'inflation, se font toutes les semaines, pour pas dire tous les mois. Et donc, cet électorat, en fait, de classe populaire qui avait un soutien massif à Erdogan, commence à retirer progressivement aussi leur soutien de son gouvernement et ne le soutient plus, en fait, parce que aussi, ses propos ont commencé à devenir assez sévères aussi par rapport aux classes populaires, les retraites, etc., qui veulent des augmentations de salaires. Et il a, en fait, des discours assez méprisants de plus en plus en disant « Mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? C'est suffisant, ce qu'on donne. » Il est pas, en fait, on a l'impression qu'il est un peu déconnecté de la réalité de la vie quotidienne. Donc, du coup, il le sent aussi au sein de l'AKP. Et c'est pas par hasard, en fait, ils se sont rapprochés des Kurdes, parce que dans les prochaines élections, si Ekrem İmamoğlu était candidat, il était fort probable qu'il obtienne une partie du soutien du mouvement kurde, ce qui ne serait pas le cas au cas où CHP aurait un autre candidat, notamment Mansour Yavaş, le maire de Ankara, qui a des origines d'extrême droite lougri et qui ne pourra pas récupérer les voix d'une partie du mouvement kurde.
Maximo ?
Oui, mais alors, il y a un aspect quand même assez évident de fuite en avant d'Erdogan, parce que on est arrivé dans une situation assez paradoxale où la Turquie, bon, était redevenue un interlocuteur pour tout le monde. Bon, les relations avec Biden étaient très mauvaises, avec Trump elles sont excellentes. Avec l'Europe, les choses s'étaient beaucoup améliorées. Elle était réintégrée dans les programmes d'armement. Avec Emmanuel Macron, ils échangeaient des noms d'oiseaux avec Erdogan depuis à peu près 1 an, 6 mois. Au contraire, ils s'appellent souvent, ils se voient plein de convergences sur les dossiers clés, Ukraine, Moyen-Orient, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un côté d'une certaine façon destructeur de cette fuite en avant vers l'autocratie.
Didier Billon.
Ah ben oui, je le pense. Alors là aussi, il faut toujours remettre dans le contexte. Malheureusement, et la Turquie ne fait pas exception, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit quand même qu'au niveau international, il y a un raidissement des pouvoirs, il y a une marche à l'autoritarisme, il y a des néofascismes qui renaissent et s'affirment. Et la Turquie procède de ce mouvement général terrible, réactionnaire, au sens le plus littéral du terme. Et Erdogan, je crois, l'a parfaitement compris. C'est-à-dire que, notamment, comme tu le rappelles, avec l'élection de Trump, il a maintenant un ami fidèle. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, quand Erdogan arrive enfin, après de nombreux efforts, à être reçu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, ils sont tous les deux, Erdogan et Trump, côte à côte. Et à un moment donné, Trump dit, pour ce qui concerne les manœuvres électorales, il veut dire les magouilles, il pointe du doigt Erdogan, il dit, lui, il en connaît un rayon. Et Erdogan, qui ne comprend pas l'anglais, ne réagit pas. Et je ne sais pas si son interprète réagit immédiatement, je n'en sais rien.
Il en était peut-être fier.
Éventuellement.
Ou bien.
Mais c'est exceptionnel quand même. Alors bon, ça c'est les façons de Trump de s'exprimer, peu importe. En tout cas, oui, sur le fond, c'est totalement contradictoire avec les intérêts de la Turquie, qui, je le crois, possède les atouts pour être un pays qui s'impose sur le champ régional et international. Mais là, Erdogan profite de la situation internationale, de cette tendance aux restrictions des libertés, pour continuer son œuvre destructrice de la société turque, sans que cela ne suscite de réaction, ni au niveau États-Unis, puisque Trump soutient, ni au niveau européen, qui, une fois de plus, se fait remarquer par son assourdissant silence.
Je reviens à la question kurde, Gulçin Erdi. Il faut juste rappeler que depuis presque un an, il y a un processus de pacification, rapprochement, désarmement du PKK qui a annoncé sa dissolution en février dernier. Toute la question au moment où cette annonce avait été faite était de savoir qu'est-ce que les Kurdes vont obtenir en échange du renoncement à la lutte armée en termes de droits culturels, démocratiques, etc. Je vous pose la question aujourd'hui, où est-ce qu'on en est à la fois de la démilitarisation, mais surtout des négociations. Est-ce que les Kurdes ont obtenu des choses concrètes quant à leur avenir politique en Turquie, Gulçin Erdi ?
Je dirais pas pour l'instant, en fait. Et les discussions continuent depuis des mois. Il y a une commission parlementaire dans laquelle GEP figure aussi. Ils ont voulu participer malgré tout. Et quand on regarde, en fait, la position du PKK, c'est, bon, c'est, ils ont passé à une étape suivante. Ils ont, bon, ils ont dit qu'ils arrêtaient les armes, mais ils ont décidé aussi de se retirer des frontières de la Turquie. Récemment, ils ont fait cette déclaration. Et en fait, par rapport à ces déclarations, qu'est-ce que le gouvernement fait, concrètement parlant? Pour l'instant, pour les droits de Kurdes, on ne peut pas parler de grand-chose. Mais ça dépend aussi d'autres paramètres, notamment le changement de la Constitution. On ne peut pas comme ça distribuer en fait des droits pour le peuple kurde. Il faut qu'ils changent la Constitution. Et pour changer la Constitution, ils ont besoin d'une majorité qualifiée. Et ça, pour l'instant, ça paraît compliqué avec la position de JEP, parce que voilà, ils montrent une carotte aux Kurdes et de l'autre côté, ils matraquent le JEP, que je ne sais pas comment ça va se passer. Mais un cadeau, à mon avis, ils vont donner dans les jours qui viennent, à mon avis, c'est imminent, c'est la libération de Selahattin Demirtas, ancien leader du parti kurde, DEM, qui a en prison depuis des années, malgré les décisions du Cour européen de droits de l'homme. Et en plus, des tribunaux locaux ont en fait refusé d'appliquer cette décision. Mais je pense que là, il y a deux jours, ils ont libéré en fait un maire d'arrondissement d'Istanbul qui était très proche du mouvement kurde. Et là, je pense que le tour sera Selahattin Demirtas. Et au fur et à mesure, on va voir. Mais pour l'instant, moi, je vois pas une avancée vraiment très concrète. Et surtout, il n'y a pas un véritable soutien auprès de l'opinion publique. En fait, ça paraît tellement comme quelque chose de arrangé pour l'avenir politique de AKP et Erdogan que la sincérité en fait de cet acte, qu'ils veulent vraiment de la paix et des droits équitables pour les Kurdes, les gens ne sont pas convaincus en fait en Turquie. C'est tout le problème, je pense.
Vous écoutez Culture Monde, Didier Billion et Gulçin Erdi sont nos invités pour parler de la situation en Turquie. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec l'association Cartooning for Peace, notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes.
Il fait le clown !
Mais on a été créés pour faire rire les gens, mon vieux !
Assis !
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé Carlos Alberto da Costa Amorim, dit Amorim. On y voit une foule immense et compacte venue protester devant le palais présidentiel en Turquie. Point de pancartes, mais des drapeaux turcs un peu partout. Le président Erdogan les regarde de haut depuis un petit balcon qui lui permet de contempler la foule. Dans ses mains, une porte de prison qu'il brandit comme s'il voulait enfermer tous les gens qui manifestent. Un dessin à découvrir sur le fil du compte Blue Sky de Culture Monde et puis sur la page de notre émission. Une réaction peut-être à cette caricature, Didier Billion.
Oui, alors évidemment, ça fait toujours sourire, même si le sujet n'est pas très drôle. Mais deux remarques. Bon, je pense que c'est très bien vu de la part du dessinateur en question. C'est qu'il y a une vraie volonté d'enfermer, de contraindre, d'empêcher de s'exprimer toute forme de contestation. La question, c'est de savoir, cette masse-là, ces nombreux, ces milliers de manifestants qu'on voit sur le dessin, que veulent-ils exactement, ça on ne le sait pas. Certains lèvent les bras, est-ce que c'est signe d'approbation ou pas? Il y a une petite ambiguïté dans ce dessin. Puis dernière chose, c'est le drapeau turc, et ça indique une chose très importante, et je rebondis sur ce que disait Gulçin, c'est le nationalisme est une gangrène, quel que soit le pays, de mon point de vue, mais alors en Turquie particulièrement, puisque je pense que tous les partis politiques, avec peut-être une exception pour les partis kurdistes qui se situent dans un autre mode de réflexion, mais tous les partis, y compris le Parti républicain du peuple, sont des partis nationalistes. Et pour la résolution de la question kurde, dont je considère que c'est encore le défi principal de la société turque, eh bien malheureusement, il y a des obstacles très très très très importants en raison de ce nationalisme grand turc qui s'exprime au quotidien, y compris dans les manifestations. Parce que là, on voit le drapeau turc. Mais je me souviens qu'au mois de mars, je l'ai vu de mes propres yeux, il y avait aussi de nombreux manifestants dans la rue qui faisaient le signe des loups gris. C'est quand même très inquiétant, mais c'est ainsi.
Dans ce dessin, on peut peut-être voir aussi, si on se place de la perspective d'Erdogan,
Il semble s'enfermer lui-même, en fait.
Exactement.
Avec ces barreaux-là, dans une tour d'ivoire, dans le pouvoir tout court.
Exactement.
Et vous l'évoquiez tout à l'heure, la question de son avenir politique. Vous le disiez, il n'y a pas de préparation à un éventuel successeur au sein de l'AKP. Donc, évidemment, la question, c'est un nouveau mandat. La Constitution l'en empêche, formellement.
Oui, mais voilà.
C'est le scénario vers lequel on se
dirige. Oui, c'est vrai que, constitutionnellement parlant, Erdogan ne peut plus se présenter aux élections de 2028, en fait, ou 2029. Il était tellement fort au sein du parti, ils n'ont pas pensé en fait à préparer un successeur à Erdogan, ils ne savent pas qui va prendre le relais. Et là, dans la caricature, quand je regarde, c'était la première chose en fait à laquelle j'ai pensé. Effectivement, il brandit en fait un gris de prison en disant bah, attention, je vais vous emprisonner tous. Mais elle est trop petite en fait. Du coup, on peut pas mettre tout le monde dans la prison et jusqu'à quand on peut continuer. Et justement, on a l'impression que il se ferme lui-même, qu'il se déconnecte de plus en plus en fait des réalités du pays et de la population, alors que c'était un de ses grands atouts qui lui a permis de rester au pouvoir pendant aussi longtemps en Turquie. C'est en fait cette connexion qu'il avait avec les Turcs lambda, en fait, les gens de la rue, les classes populaires, les gens défavorisés, etc. Et là, on voit que c'est comme s'il ne comprend plus rien à ce qui se passe dans la rue, pourquoi tous ces gens se manifestent, en fait.
Le dessin peut-être aussi l'occasion de dire un mot de la situation des prisons. En Turquie, plusieurs rapports d'ONG, dont Amnesty International, mais aussi le groupe Prison Insider, ont dénoncé des pratiques de torture, notamment en prison. On sait aussi qu'il y a eu beaucoup d'arrestations, donc on peut imaginer le niveau de surpopulation. Qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce qui se passe dans les prisons turques aujourd'hui, Didier Billion?
C'est aussi très symbolique du fait que avant l'arrivée de l'AKP, le parti de Erdogan au pouvoir, la pratique de la torture était très fréquente. Et il est vrai que dans une première étape, les 10 premières années, en gros, du pouvoir de l'AKP, il y a eu de véritables progrès, véritables, y compris en termes de torture. Oui. Et que là, il y a une forme de régression. Donc c'est très symbolique de tout ce que nous avons expliqué précédemment, c'est-à-dire que il y a là, de façon systématique, méthodique, organisée, planifiée, la volonté d'en découdre avec toutes les formes de liberté. Et en l'occurrence, ça va plus loin, puisque la pratique de la torture semble effectivement, je ne sais pas si elle est généralisée, mais être pratiquée alors qu'elle avait presque totalement disparu.
Et juste ajouter, la torture a changé de dimension aussi. On ne peut pas parler de torture au sens classique du terme, oui, mais on peut parler de torture psychologique d'abord, pour inciter les gens à, par exemple, parler contre Imamoglu, etc., ou de ne pas leur fournir les aides sanitaires dont ils ont besoin quand ils ont des maladies chroniques. Et là, actuellement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce cas-là.
Aşkımı yerlere serdin. Arasan da artık dönmem. Yalan et. ettiğin her şeyi dinlen. Gözün arkada kalmasın lütfen. İçsen de ben yere düşmem. Artık son verdim. Zihnimi
Le groupe féminin manifeste turc avec ce titre Areyo dans lequel on entendait Hak, Hukuk, Adalet, droit, loi, justice que scandaient les manifestants en mars dernier en réaction à l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Merci beaucoup à nos deux intervenants, Gulçin Erdi. Je rappelle votre ouvrage à paraître Ankara, miroir de la République, pouvoir, utopie et résistance. C'est prévu aux éditions de l'Université de Bruxelles. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Et merci à vous, Didier Billion. Votre dernier livre, c'est La Turquie, un partenaire incontournable. Et c'était aux éditions Erol. Merci Marc Sémon. On se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série consacrée au patrimoine. Alors que l'UNESCO fête les 80 ans de son existence, il sera question des trafics de biens culturels, de l'engouement pour les grands musées dans le monde arabe et du retour des œuvres pillées au Bénin. Et dans un instant, les midis de culture.